Alors, bonjour tout le monde. On est super heureux de vous retrouver. Alors, il y a des chances que le soleil tourne. Enfin, d'habitude, c'est comme ça. Donc, l'ombre va bouger. Donc, vous n'hésitez pas à suivre l'ombre. Hein. Bon, ceci dit, en principe, on en a pour une heure ensemble. Donc, ça devrait aller. Alors, on va commencer par se confier à la Sainte Vierge. Un petit temps de prière. Marie, tu as accompagné Jésus au pied de la croix. Ton cœur a été touché par ses souffrances. Ton cœur s'est profondément réjoui à sa résurrection. Alors, aide-nous à entrer dans cette compassion et dans cette joie du ressuscité. Ô Esprit Saint, change nos cœurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous explique un peu ce qu'on fait aujourd'hui. D'abord, évidemment, on est content de vous retrouver tous. Épaté, à vrai dire, de retrouver beaucoup d'entre vous. On commence à repérer quelques visages. Bon, on commencera à vous connaître vraiment demain quand ça sera fini, donc un peu dommage. Alors, aujourd'hui, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans à la fois le mystère de la souffrance qu'on essaye de cerner, et puis la réponse de Dieu. Hein. Donc ça sera un après-midi clé. Donc il y aura à la fois des réponses, je dirais, théologiques, un peu solides, pour nourrir ceux d'entre vous qui ont besoin de ce genre de réponses, puis on tâchera de côtoyer Jésus, hein, que son cœur amène la paix à notre cœur. Voilà. Alors, on va commencer par une petite histoire que... Ah oui, alors, on a reçu une dizaine de questions de vous, certaines orales, d'autres écrites. Je les ai collées soigneusement sur une feuille que j'ai avec moi. On a travaillé assez tard hier soir dessus. Alors, on va gérer de la manière suivante. On va répondre à certaines questions pendant l'enseignement, pendant le topo de cet après-midi. Ce sera intégré dedans. Peut-être je penserai pas à les citer, mais en tout cas, je donnerai des clés pour répondre. Puis, certaines autres, on y répondra de manière très spécifique demain après-midi. Hein. On s'est organisé comme ça. Donc, concrètement, vous avez les deux paniers qu'on a annoncés hier. Ça, c'est les questions. Donc, vous pouvez en mettre d'autres. Et puis là, c'est les intentions de prière. Pour l'instant, il y en a une. Vous pouvez en mettre d'autres aussi. Elles seront donc présentées à la messe demain pour que tout le monde prie pour vos intentions. Donc cet après-midi, différentes choses. Pas mal de témoignages. Hein, on garde ce principe du témoignage. Et... Alors, on va commencer par une petite histoire qu'Anne va nous raconter, qui va nous remettre un peu dans le bain, nous réveiller. Et puis après, je commencerai. On va bien voir comment ça se passe. Je vous passe Anne.
Non, c'est Jean-Michel. Alors, moi, lorsque je me suis convertie, je vous disais hier, je suis rentrée dans un petit groupe qui s'occupait de drogués et de clochards. Et le vendredi et le samedi soir, d'abord toute la semaine on priait 2 heures par soirée, et le vendredi et le samedi soir on ouvrait un petit bar sans alcool, on faisait des soupes, et il y en a un d'entre nous qui allait se mettre en adoration, et les autres accueillaient ceux qui venaient. Et comme c'était un bar sans alcool, on recevait principalement des clochards, on recevait des jeunes qui avaient des problèmes mentaux, et on recevait des drogués. Et alors je voudrais vous raconter un petit moment que nous avons vécu avec un clochard qui s'appelle Jean-Michel, qui avait 33 ans. Un vendredi soir, Alexis et moi, nous étions en adoration pendant que le bar était ouvert, et Jean-Michel est entré dans notre chapelle en claquant la porte contre le mur. Et il avait bu, il avait trop bu. Et le Saint-Sacrement était exposé. On a regardé Jean-Michel, on a continué à prier. Et Jean-Michel s'est placé devant le tabernacle, devant le Seigneur. Et il a commencé à réciter les prières qu'il connaissait. Alors nous, on s'est fait tout petit. Il a récité le Notre Père qui est aux cieux, très bien. Jusqu'au bout, c'était vraiment super. Après, il a récité un Je vous salue Marie. Et là, c'était super. Et puis, il a commencé le Je crois en Dieu. Et alors, il titubait, il était là comme ça, devant le tabernacle. Et il a commencé, il a dit, Je crois en Dieu le Père. Et puis, tu sais, moi, Seigneur, je ne suis qu'un pauvre type. Moi, je ne suis qu'un misérable. Ma vie ne vaut rien. Eh bien, et il a parlé comme ça pendant 10 minutes. Et c'était une prière absolument magnifique. Magnifique. Et puis il est parti. Et ce moment-là, on s'est dit, eh ben, c'est une vraie rencontre entre Jésus et un pauvre. Et c'était un vrai dialogue. Et nous avons énormément reçu ce soir-là.
Voilà. Alors, on vous raconte ça parce que certains d'entre vous ont été fortement touchés par la session d'hier. Et puis, on parle de choses quand même pas faciles. Alors, en quelque sorte, cette histoire de Jean-Michel, c'est un peu l'idéal pour nous. Hein. C'est un pauvre et il parle à Dieu. Et il faut revenir à cette simplicité, à cette légèreté. Il faut quand même pas oublier que voilà, notre idéal, il est tout simple. Hein. C'est de nous présenter tel que nous sommes. Et puis, eh ben, Dieu nous aime. Et parlons-lui avec nos mots. Voilà, on voulait commencer par ce petit truc tout simple. Alors, on va... un petit mot d'introduction déjà. Je pense qu'il commence à apparaître, après tout ce qu'on a dit hier, que le mystère de la souffrance, c'est pas une question à laquelle on va donner une réponse simple. C'est pas, comment dire, une objection qu'on va écarter rapidement en disant voilà, il y a tel point, tel point, tel point, c'est bon, puis maintenant on peut parler de Dieu. Hein, ça marche pas comme ça. Vous commencez à soupçonner que ce mystère de la souffrance, c'est pas une objection, c'est le point de départ d'un chemin. Hein, c'est presque un appel. C'est le point de départ d'un chemin et l'Église n'a pas peur de cette objection. L'Église n'a pas peur de cette question. C'est pas une chose qu'on doit évacuer pour pouvoir être chrétien, pour pouvoir connaître la joie de Dieu. C'est le contraire. C'est ce mystère qui va nous amener, paradoxalement, au cœur de l'homme et au cœur de Dieu. Hein. Et alors, je vous disais hier, vous pourrez pas suivre ce parcours sans accepter d'être déplacé, sans bouger vos lignes. Et alors ça va être encore plus fort aujourd'hui, il faut qu'on accepte, si on se pose sérieusement ces questions, de bouger et puis de suivre ce chemin. Et c'est ce chemin qui va peu à peu nous transformer. Donc attendez pas des réponses simples, mais n'attendez pas non plus de peur. L'Église, elle est sereine avec ça. Et je tâcherai d'expliquer pourquoi tout à l'heure l'Église est sereine. Je vous cite une petite phrase de Jean-Paul. Alors je vais vous donner quelque chose concrète. Pour ceux qui ont envie de creuser, hein, dans les semaines qui viennent ou même les années qui viennent, je vous donne trois références que j'ai beaucoup travaillé pour préparer ce topo, enfin qu'on a beaucoup travaillé avec Anne. La première, c'est une encyclique de Jean-Paul II qui s'appelle « Le sens salvifique de la souffrance ». « Salvifici Doloris », « Le sens salvifique de la souffrance » de Jean-Paul II, qui est un texte un petit peu difficile, mais absolument merveilleux. Hein, je l'ai lu, relu, mâchouillé pendant des semaines, en pensant à vous. Donc, alors, je ne sais pas s'il est à la librairie, mais vous le trouverez facilement sur Internet. C'est un trésor, c'est vraiment un trésor. Deuxième référence, toute simple, dans le catéchisme d'Église catholique, ce petit bouquin qu'on lit en quelques heures, là. Hein. Non, c'est énorme pavé, mais pour moi j'y reviens tout le temps. Allez voir les numéros 309 à 311, pour les intellos parmi vous. Hein. Catéchisme de l'Église, numéro 309 à 311, en très compact, il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Ceci dit, Jean-Paul II nous prévient, et, enfin le catéchisme nous le dit, en gros c'est la totalité de la foi chrétienne qui répond à cette question du mystère de la souffrance. Il faut la totalité de la foi et de la révélation des pères de l'Église et de la vie des saints pour entrer dans ce mystère. Alors comme on a trois quarts d'heure devant nous, ça devrait être bon. Bon voilà, allez voir ça, puis peu à peu vous pouvez avancer. Un dernier livre d'un théologien anglican, un laïc, mais je me permets de le recommander parce qu'il est tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Lewis, ça s'appelle Le problème de la souffrance. Vous trouverez ça facilement sur internet, Le problème de la souffrance de Lewis, un livre absolument magistral, très très beau.
Je voudrais juste savoir, hier j'ai parlé avec Marie, est-ce qu'elle est là? Ah, merci, je suis contente que tu sois là.
Voilà, j'arrête avec les références et puis je commence. Alors, je cite quand même Jean-Paul II donc, pour terminer cette introduction. Donc, il précise quand même que c'est un grand mystère. Hein. Il nous dit « La souffrance semble appartenir à la transcendance de l'homme. » Donc, si on veut creuser ce mystère de la souffrance, on tombe sur la transcendance de l'homme. La grandeur de l'homme, pour faire plus simple. Hein. Puis il dit à un autre endroit, si on veut vraiment aller au bout de ce mystère, on est obligé d'entrer dans la compréhension ultime de l'amour de Dieu. Voilà. Donc on est vraiment sur un chemin qui va nous faire avancer. Alors, on attaque par un point, disons un petit peu, quelques éléments de théologie, là, ça fait quand même du bien de s'éclairer. Ça s'appelle « Si Dieu est bon et tout-puissant, d'où vient la souffrance ?» Comment ça se fait qu'il peut y avoir de la souffrance et du mal dans le monde alors que Dieu est à la fois bon et tout puissant? Alors, première notion qui va peut-être être nouvelle pour beaucoup d'entre vous, c'est pas une notion qu'on enseigne souvent, comment je vais expliquer ça? Dieu n'est pas un ingénieur. Dieu n'est pas... Dieu n'est pas un ingénieur, ça veut dire que Dieu n'a pas conçu le monde comme une machinerie parfaitement huilée où tout se passe sans imprévu, sans bug. Hein. Il se trouve que moi je suis ingénieur de formation et Anne elle est sculpteur sur bois et puis on fait de la musique et puis alors Dieu c'est tout ça, Dieu c'est un ingénieur mais c'est aussi un poète, c'est aussi un musicien, c'est aussi un sculpteur, c'est aussi un rêveur, hein, c'est aussi un créatif, il est hyper créatif le bon Dieu, avec un regard autour de nous, il est créatif au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et alors son objectif, si tel qu'on peut le comprendre, c'était pas de créer un monde parfait. C'était de créer un monde où la liberté puisse émerger. Ça, c'est très important à comprendre. Ce monde n'est pas conçu pour être parfait. Il est conçu pour que la liberté puisse émerger, pour que la vie puisse émerger. Et saint Thomas d'Aquin va très loin. Il dit deux choses. Là, je fais un petit peu de théologie pour introduire, c'est pas mal. Premièrement, il dit, Dieu aurait pu créer un monde parfait, mais il l'a pas fait. Il n'a pas choisi de créer un monde parfait. Il aurait pu le faire meilleur, mais il n'a pas choisi de faire ça. Et il va même plus loin, c'est très impressionnant, saint Thomas dit, le hasard est constitutif, fait partie des constituants de l'univers dans lequel on vit. Le hasard existe, il fait partie du monde dans lequel on vit, et la présence du hasard, c'est la preuve de la toute-puissance de Dieu. Parce que même le hasard peut être géré par Dieu le Tout-Puissant. Alors intellectuellement, c'est pas facile à comprendre, mais on prétend pas comprendre Dieu, hein, on essaye simplement de recevoir des lumières. Ça veut dire que sa toute-puissance est telle qu'il a la capacité de donner à l'univers une forme d'autonomie, dont le hasard fait partie, et puis de tout ça, il s'en arrange, et il gouverne, et il va où il veut. Mais n'empêche qu'on est dans un monde qui est pas terminé, qui est pas fini. On est dans un monde qui est en devenir vers un but. Hein. Ça, c'est très important à comprendre. Alors ce monde, il a trois caractéristiques, je fais un peu rapidement, il est en devenir, donc vers un but, il change, il bouge. Ça veut dire que dans ce monde, naturellement, il y a des apparitions et des disparitions. Ça veut dire que naturellement, dans ce monde, il y a une forme de mort et une forme d'apparition de la vie. Parce que Dieu, alors tel qu'on peut le comprendre, Dieu ce qu'il a voulu, c'est laisser la vie émerger, laisser la liberté émerger. Et si on y réfléchit bien, enfin moi je suis un passionné d'astrophysique et puis de biologie, en fait la vie n'est possible quand on est à la limite du désordre, quand on est à la limite du chaos. Il faut des conditions extrêmement souples, extrêmement presque fragiles pour que la vie soit possible. Et au sein de ce, certains théologiens parlent de tissu germinatif, je ne sais pas, c'est peut-être dur à traduire, mais disons, au sein de ce, cet univers un peu instable, bah, la vie émerge. Alors ça permet de voir toute la théorie de l'évolution au sein de la foi chrétienne. Il n'y a aucune contradiction entre la théorie de l'évolution et la foi chrétienne, puisque Dieu n'a pas fait un univers fini, mais un univers en devenir vers un but. Bon, j'insiste pas. Mais c'est quand même important. La deuxième chose, c'est que cet univers, il est structuré par des lois qui sont indépendantes de nous. Si je laisse tomber un marteau, il tombe par terre. Si je saute par la fenêtre, je me casse une jambe. Hein, et on est entouré de lois physiques, et ces lois permettent la liberté, parce qu'elles permettent de prédire les conséquences de nos actes. Si je vous donne une baffe, ça vous fait mal. C'est des lois de la physique. Hein. Et Dieu ne nous gouverne pas par mode de miracle permanent. Il nous gouverne d'abord par la stabilité des lois qui nous entourent. Ça veut dire qu'on est responsable de nos actes. Si je vais trop vite dans un virage, je sors du virage. Et sauf exception, bon, Dieu peut faire des miracles, mais justement c'est des miracles. Sauf exception, si je vais trop vite, je sors du virage et je me retrouve à l'hôpital. Parce que c'est les lois de la nature dans laquelle j'évolue. Alors, on peut penser que si Dieu a créé ce monde qui est en quelque sorte dangereux, hein, puisqu'il faut qu'on respecte ses lois, en échange, ça permet la liberté, donc la responsabilité. Hein, vous voyez qu'on est très loin d'un Dieu, tout puissant, grand horloger, qui gérerait tous les détails et puis qui nous laisse aucune marge de manœuvre. On n'est pas du tout dans ce chemin. Alors, imaginons un monde totalement fini. Totalement figé, totalement parfaitement organisé, ça voudrait dire qu'on serait un rouage. Alors, regardez une horloge, très compliqué, chaque roue tourne, est à sa place, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, aucun rouage d'une horloge ne se stresse, hein, tout va bien, mais il n'y a absolument aucune vie, aucune liberté. Alors on aurait peut-être préféré un monde comme ça, on n'aurait pas de soucis, mais c'est pas le choix de Dieu. Et moi je dis louange à toi, je dis alléluia, merci mon Dieu de nous avoir créés libres et de nous avoir donné cette capacité d'autonomie. Alors on peut peut-être te louer là, merci Seigneur, hein. Amen, louange à toi Seigneur, merci pour cette liberté, pour ce monde magnifique que tu nous as préparé. Voilà. Alors ça, c'est la première cause naturelle des souffrances, c'est qu'on est dans un monde qui est instable, on est dans un monde qui n'est pas fini, et on appelle ça, alors le catéchisme appelle ça le mal physique, je préfère l'appeler pour vous le mal naturel, c'est plus simple à comprendre, c'est une imperfection qui ne vient pas du péché, qui ne vient pas de nos fautes, qui ne vient pas du fait qu'on est fautif, c'est une imperfection qui vient en quelque sorte du désir de Dieu de nous faire vivre dans un monde qui permet la vie et qui permet la liberté. Voilà, ça c'était quand même un truc important. Alors, vous allez voir, on va revenir tout de suite en pleine réalité, puis ça va vous faire drôle, je vais vous parler un petit peu du tsunami qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je prétends pas tout expliquer, puis on y reviendra tout à l'heure. Hein. Il reste l'immense mystère de la souffrance des hommes. Mais si vous y réfléchissez bien, enfin vous le savez peut-être pas, mais le tsunami vient de la tectonique des plaques, vient du fait qu'il y a des mouvements, des tremblements de terre, bon ça a créé un raz-de-marée. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que sans la tectonique des plaques, aucune vie ne serait possible. Alors, j'ai pas le temps de développer, c'est des sujets qui me passionnent, mais j'ai pas le temps, mais on peut montrer scientifiquement que sans ce mouvement des plaques dans l'histoire du monde, il n'y aurait pas de vie, pas du tout. Il n'y aurait même pas une bactérie. Ça fait partie des conditions qui font que la vie est possible. Et sur une planète qui est morte, qui n'a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie possible. Donc on est en présence d'un phénomène naturel qui à la fois a permis la vie, s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas d'homme. Et en même temps, ce phénomène naturel instable provoque un problème dramatique pour les hommes. Vous voyez qu'on est dans un schéma surprenant. Dieu nous a pas mis dans un monde parfait, il nous a pas mis dans un monde stable. Ce qui l'intéresse, c'est pas notre confort. On est de nouveau sur le malentendu. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on devienne des saints, c'est qu'on apprenne à aimer. C'est ça qui l'intéresse. Alors, on est obligé de passer dans l'adoration. Parce que, là je vous disais tout à l'heure au début de ce topo, il faudra se déplacer. Là, il y a un premier déplacement. Bon, on aurait bien aimé que le monde soit plus stable, mais c'est pas le cas. Et la seule solution qu'on a, c'est d'adorer Dieu. C'est de lui dire à Dieu, merci pour ce monde que tu me donnes, puis je vais essayer d'aimer le plus possible dans ce monde tel qu'il est. Voilà. Vous voyez que c'est pas si facile de comprendre Dieu, hein, Dieu est Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça remet en cause la providence? Non, ça remet pas en cause la providence. Hein, le bon Dieu, c'est pas parce que l'univers a une autonomie que le bon Dieu s'occupe pas de chacun des détails de nos vies. Si vous êtes là cet après-midi, c'est que Dieu vous a attendu, c'est pas par hasard. Chacun de vos cheveux est compté, c'est bien dit dans l'Écriture. Chacun, vous êtes infiniment aimé de Dieu, chacun d'entre vous. Mais la manière dont Dieu gouverne le monde est mystérieuse. Il ne le gouverne pas à l'image d'un ingénieur. Hein. Alors, d'abord, il le gouverne en nous faisant venir à l'être. Hein. Il suffirait qu'il cesse de penser à nous une seconde, puis on disparaîtrait tous dans le néant. On est là simplement présent parce qu'il pense à nous, qu'il nous soutient dans l'être, et puis il nous soutient dans l'agir, dans l'action. Sans Dieu, on ne pourrait pas agir. Donc, je ne veux pas aller plus loin. C'est pas facile. C'est un sujet assez mystérieux, mais on pourrait dire que Dieu gouverne le monde en interagissant avec notre liberté et avec la liberté des êtres vivants. Hein. Mais cette liberté, elle est là, elle est forte. Alors, troisième point important, la liberté. Donc on a dit, Dieu permet dans ce monde l'émergence de la liberté. Ça veut dire qu'on peut dire oui, ça veut dire qu'on peut dire non. Et on tombe sur ce qu'on appelle le mal moral, c'est-à-dire le péché. Alors pour réaliser ce que c'est que le péché, ben c'est simple. Imaginez une seconde qu'il n'y ait pas de péché sur Terre. Juste une seconde. Revoyez les infos d'hier ou de ce matin, je ne sais pas quand vous les avez entendues, et puis enlevez le péché de ces infos. Bah, la radio serait silencieuse, hein, quasiment. Plus de guerre, plus de famine, peu de maladies, les maladies qui restent entourées d'amour. Hein. L'ensemble du monde scolarisé, un système politique équilibré, enfin bon, j'en passe. On peut même pas imaginer ce que ça donnerait un monde sans péché. Hein. Donc on voit bien que le mal moral, le péché moral, l'égoïsme, il est source d'une immense quantité de malheur et de souffrance dans le monde. Alors, on peut voir la même chose dans nos vies, hein. C'est pas dur de faire la liste. Si on n'avait pas de péché dans nos vies, il y a beaucoup de souffrances déjà qui disparaîtraient ou qui s'atténueraient. Donc le mal moral, le péché, c'est la deuxième source de souffrance. Donc il y a ces deux sources, le mal naturel, puis le mal moral, le péché. Alors, ce qui est intéressant dans cette question du mal moral, c'est que ça veut dire qu'on est responsable du monde. J'ai eu une question hier sur la Somalie, quelqu'un m'a dit, mais comment comprendre ce scandale de la guerre, ces enfants qui meurent de faim depuis des années en Somalie? On peut parler de l'avortement, on peut parler de plein d'autres choses. On peut parler du climat qu'on est en train de bousiller. Dans tous ces trucs-là, ce qui est clair, c'est qu'on est libre et qu'on est responsable du monde qui vient. Et bon, vous les jeunes, vous êtes spécialement responsables de ce monde qui est en train de se construire au XXIe siècle. Et alors là, on va vraiment avoir besoin, vous aurez besoin de vivre sous la conduite de l'esprit pour assumer cette responsabilité, puis pour emmener le monde là où Dieu voudrait. Je voudrais quand même faire une remarque, je sais que c'est un petit peu long, mais c'est quand même des points importants. Une remarque quand même importante au sujet de la Somalie ou des événements qu'on voit à la radio. Notre psychisme n'est pas fait pour assumer les misères du monde. On n'est pas conçu, on n'est pas taillé pour intégrer, pour assumer en pleine poire, en pleine figure, tout ce qui se passe dans le monde. Et les médias nous mettent une force, une pression qu'on est juste pas capable d'assumer. Donc il faut écouter, il faut être sensible, mais il faut quand même pas oublier que Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Il ne demande pas d'aimer le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais en même temps, il faut quand même rester dans une certaine prudence. Il nous demande d'abord d'aimer notre prochain, ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous entourent. Alors je termine cette petite introduction théologique, c'est quand même assez éclairant tous ces points. Un dernier point, c'est que si on réfléchit à l'homme, aussi bien en philosophie qu'en théologie, on ne devrait pas mourir. On ne devrait pas être malade. La puissance de notre esprit est telle hein, que notre corps devrait être totalement soumis à notre esprit. Et c'est pas naturel à l'homme de mourir, c'est pas naturel à l'homme d'être malade. Et cet état, alors là, l'Église est très claire sur ce point, la mort est rentrée dans le monde par le péché. Donc on voit que tout cet ensemble, le mal naturel, le mal moral, le péché en nous, nous fragilise beaucoup, c'est la source de toutes les souffrances que nous devons endurer. Alors là, j'ai pas donné le sens de la souffrance, j'ai pas répondu au pourquoi terrible, mais on comprend mieux comment un Dieu tout-puissant, un Dieu bon, on comprend mieux comment la souffrance, toutes ces sources de souffrance peuvent exister face à un Dieu tout-puissant. Au fond, si on résume, toutes ces souffrances existent parce qu'on est trop aimé. Et on aimerait bien souvent être aimé un peu moins. On aimerait bien que le bon Dieu nous donne pas toute cette liberté. On aimerait bien qu'il nous rende pas autant responsables du monde. On aimerait bien qu'il aille bousiller tous les méchants qui font la guerre. Hein. On aimerait bien qu'il s'occupe de tout ça. Seulement, il nous aime trop pour le faire. Il nous respecte trop pour le faire, c'est pas sa manière. Mais il va nous conduire dans la douceur et il nous amène le plus loin possible tout ce temps qu'on est. Et alors, il y a que lui qui a toutes les clés, hein, qui voit le monde. Et c'est clair qu'il ne s'y prend pas comme nous. Je voulais terminer avec quelque chose d'extrêmement important, enfin ce premier point. Saint Thomas d'Aquin nous dit la chose suivante. On ne sait pas trop pourquoi, en fin de compte, Dieu tolère autant de mal, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que sa toute-puissance est telle qu'il peut tirer de n'importe quel mal un plus grand bien. Ça, c'est essentiel. Saint Thomas le dit. De tout mal, Dieu peut tirer un plus grand bien. Pas un bien, un plus grand bien. Donc il y a ce mystère de l'action de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, qui est capable dans chacune de vos vies, dans chacun de vos cœurs, de tirer un plus grand bien de tout ce que vous avez vécu, quoi que ce soit. Que ce soit des faiblesses naturelles, que ce soit des déficiences, des incapacités, que ce soit le péché, que ce soit le non, du moment que vous ouvrez votre cœur, sa toute-puissance est capable de tout transformer, tout, en quelque chose de plus grand. Hein? On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant, je sais que je suis un petit peu trop bavard. Maintenant, Anne va terminer un petit peu son témoignage et en même temps répondre à une ou deux questions qui ont été posées hier soir. Puis ça nous permettra de voir un peu mieux comment le bon Dieu, par sa toute-puissance, peut guérir, hein, peut transformer une souffrance ou un échec en une chose plus belle.
Voilà, alors, il y avait des questions hier vraiment intéressantes. Hein. On m'a demandé comment est-ce que vous avez pu pardonner. Alors, j'ai la grande chance d'avoir une capacité de vivre beaucoup dans l'instant présent et de ne pas ressasser. Quand on ressasse, pour les traducteurs, ça veut dire quand on répète dans sa tête inlassablement « Oh là là, comme je suis malheureuse, comme j'en ai bavé, comme la vie est dure. » Eh bien, vraiment, on ne se fait pas de bien. Et moi, j'ai cette chance de ne pas avoir ressassé. J'ai vécu l'instant présent. Quand le Seigneur a changé ma vie, quand il m'a retourné comme une crêpe, j'ai changé de monde. Voilà. Ce jour-là, j'ai changé de monde. Je n'ai plus jamais revu mes copains. Hein, les copains avec lesquels je me droguais. J'ai changé de monde. Et je n'avais aucune haine en moi. Je n'avais aucun ressentiment. J'ai juste changé de monde, changé de vie. Voilà. Alors, donc j'ai rencontré Alexis dans ce petit groupe de jeûne et de prière, et en fait, on donnait notre vie. Voilà. Moi, j'ai tout de suite, 2 jours après ma conversion, j'ai commencé à d'abord, j'avais des milliers de questions que j'ai posées à Alexis. Des milliers de questions sur justement le mal, la souffrance. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que Dieu peut nous aimer? Qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que c'est que Dieu présent en 3 personnes? Qu'est-ce que c'est que mourir sous Ponce Pilate? Voilà, toutes ces questions, je les avais et j'ai pu trouvé un interlocuteur qui s'était énormément formé. Alexis avait perdu son papa quand il était petit. Et quand il a eu 13 ans, il a rencontré un dominicain qui était extraordinaire et qui a formé son intelligence. Et quand Alexis avait 14 ans, il allait à la messe tous les jours. Alors, vraiment, presque toutes mes questions ont trouvé une réponse. Donc j'ai eu énormément de chance. J'ai appris dans ce groupe à prier. J'ai enlevé mes lunettes qui me gonflent. J'ai appris dans ce groupe à prier, à m'appuyer sur le Seigneur. Et on a donné notre vie ensemble pour les clochards, pour les drogués, pour les pauvres. Et je dirais que toutes les heures de dialogue qu'on a eues, pour moi, ça a été une thérapie. Hein? Donc je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vivre ce que j'ai vécu et qui auraient besoin de se faire aider par des psychologues. Il faut à tout prix trouver quelqu'un à qui on puisse parler. C'est obligatoire, c'est vital. Il faut parler. Rien que de dire les choses, rien que de se rendre compte qu'on est innocent du mal qui nous est arrivé, moyennement, parce que je prenais quand même bien des risques, hein, mais de se rendre compte quand même que on doit guérir, on n'est pas coupable. Moi, je me sentais pas coupable. Hein, j'ai eu cette chance, je me sentais pas coupable. Je me sentais blessée et j'avais besoin de guérir. Hier, quand j'ai terminé mon témoignage, j'ai fini en disant « Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi pendant ces 3 heures ?» Et je vous ai dit « Il a donné la paix à mon cœur. » Je ne vous ai pas dit « Il m'a guéri. » La guérison vient avec le temps. J'ai fait des cauchemars pendant plusieurs années. Toutes les nuits, je faisais des cauchemars. Mais ça ne me stressait pas. Voilà, Alexis avait l'habitude d'être réveillé par un grand cri, par... Et voilà. On s'est rencontrés, au début, moi, pour moi, je disais, Dieu a tellement fait dans ma vie, je vais lui donner ma vie tout entière. Et au bout de 2 mois, j'avais pris des contacts avec des bénédictines de la compassion, et donc je voulais devenir consacrée. Ça aurait été une catastrophe. J'aurais semé une belle zizanie. Et donc, quand je parlais avec Alexis, on était complètement libre dans nos relations de garçon-fille, parce que moi, ma vocation était d'être religieuse, consacrée. Et puis, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on s'aimait, et on a vécu 1 an en fiançailles, en temps de fiançailles, en temps de préparation à notre mariage. On a très vite vu qu'on voulait se marier. Et pendant cette année, on a vécu dans une très grande chasteté. Et je dirais que le Seigneur, moi, il m'a reconstruite là. Hier, il y avait une question, comment pouviez-vous encore aimer ? Et elle m'a fait rire cette question, parce que quand le Seigneur nous touche, quand le Seigneur vient donner un petit coup, même un petit coup sur notre cœur, il fait rentrer en nous l'amour. Voilà. Il ne le fait pas sortir, il le fait rentrer. Chaque fois que le Seigneur nous touche, chaque fois qu'on pleure en écoutant les infos, chaque fois qu'on est blessé par un ami, qu'on est blessé par une toute petite chose qu'on a vue qui nous bouleverse, on ne durcit pas notre cœur. Le Seigneur le pénètre de son amour. Et je crois que quand on est des blessés de la vie, et tous un jour on va souffrir, tous un jour on va perdre un ami, tous un jour on va perdre quelqu'un qu'on aimait tendrement. Tous un jour, on va connaître peut-être la peur. Hein? Mais là, le Seigneur fait de nous des missionnaires d'amour. Parce qu'il sème cette graine d'amour dans notre cœur, il fait de nous des missionnaires d'amour. Quand on voit Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, c'était les personnes qui étaient le plus près des souffrances Hein, on les a vus à la télé, on a vu leur sourire. On a vu le visage ravagé de Mère Teresa. Ce visage ravagé, il était ravagé par la souffrance, mais dans le fond du cœur, il y avait une joie, il y avait un amour immense. Alors je crois que... Bon, moi hier, je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire pour clore hein, mon histoire. Et je voudrais vous dire, je rends grâce au Seigneur pour tout ce que j'ai vécu. Parce que j'avais, à 12 ans, j'avais le rêve de vivre un grand amour. Et il m'a donné des milliers de fois plus grand l'amour dont je rêvais. Des milliers de fois. Vivre une tendresse de couple dans la foi, c'est trop beau. C'est beaucoup plus grand que nos rêves. Vivre, avoir ce Seigneur devant lequel on peut se mettre à genoux, tous les deux. Vivre cette communion de cœur en ayant le même horizon, le même Seigneur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ce dont je rêvais. Et je voudrais vous dire, le Seigneur, il appelle chacun de vous à cette aventure. Chacun de vous. Il n'y a pas de réalisme qui compte. Le réalisme, il est là. Le réalisme, c'est le Seigneur m'appelle à vivre un grand amour. Voilà, cette phrase, écrivez-la. Écrivez-la. Mettez-la dans votre poche. Hein, un tout petit bout de papier dans votre poche. Quand vous changez de pantalon, changez le papier de poche. Et quand vous mettrez la main dans votre pantalon pour prendre un mouchoir pour pleurer, vous direz, waouh, quoi, le Seigneur m'invite à vivre un grand amour. Chacun de nous, n'ayons pas peur. On en reparlera. Amen, merci Seigneur. Hein.
C'est peut-être le moment de faire un petit coup d'oraison flash, hein, pour laisser tout ça descendre dans notre cœur. Alors, vous connaissez le principe maintenant ? Allez, petite oraison flash. On fera une petite pause. Alors on rejoint, on ferme nos yeux. Et il suffit de se connecter à ce Dieu qui n'est pas lointain, qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, je crois que tu es là. En moi. Seigneur, j'ai confiance. Je t'offre tout. Seigneur, je t'aime. Amen. Alors, je vous redonne un deuxième point, je l'ai appelé « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». On va parler un peu de Jésus, de son mystère. On n'a pas encore, on va essayer maintenant de comprendre le sens de cette souffrance. Anne nous a déjà donné beaucoup d'éléments, je crois, mais il ne suffit pas d'expliquer, ça c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est d'essayer de trouver du sens à ce qu'on vit. Vers quoi ça nous mène? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre le sens de ce qu'on vit? Alors, il y a déjà une chose importante. Hier, j'ai une question, dans les questions, là, quelqu'un m'a dit, mais quand même, il y a un truc important, Jésus, Dieu punit ceux qui ne croient pas en lui. Dieu punit ceux qui ne lui obéissent pas. Et attention, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Tout l'Ancien Testament est rempli de cette vérité. Les Égyptiens, dans la question, il y avait les Égyptiens, bon, les Égyptiens, bah, ils ont été punis parce qu'ils ne voulaient pas obéir à Dieu. Ils ne voulaient pas libérer le peuple d'Israël. Donc on ne peut pas balayer d'un revers de main cette notion de la toute-puissance de Dieu et de son exigence, on doit obéir à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais, Jean-Paul II nous dit dans son encyclique que Jésus, c'est un tournant dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire du cosmos, Jésus nous fait passer de la justice de l'Ancien Testament, donc du Dieu Tout-Puissant qui punit, au régime de la rédemption, c'est-à-dire au régime de la miséricorde. C'est-à-dire qu'on change de régime, on découvre un nouveau visage de Dieu qui abolit pas l'ancien, tu expliquais, mais on découvre un nouveau visage de Dieu qui suit de la miséricorde. Et on va pouvoir lui donner toutes nos faiblesses, tous nos péchés, les brûler au feu de sa miséricorde. Seulement attention. Attention, là je suis obligé d'être rigoureux, peut-être, on ne peut pas trahir l'évangile, on ne peut pas se moquer de Dieu. Et si on veut rentrer dans ce Nouveau Testament, si on veut rentrer dans cette grâce de la miséricorde, ce que Dieu désire du plus profond de son être, il y a un ticket d'entrée. Il y a un ticket d'entrée, c'est pas gratuit. On peut pas juste dire, bof, je fais ce que je veux, de toute façon Dieu est miséricorde. Ça c'est se moquer de Dieu. Et là, si on veut se moquer de Dieu, ben, il faut avoir le courage de faire face à sa colère, et il vaut mieux se cacher. Hein. Et là, je préfère être clair, quoi. On ne peut pas se moquer du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Par contre, si on accepte de payer le ticket d'entrée, alors on rentre dans la miséricorde, puis on risque plus rien. Ce ticket d'entrée, il nous a été merveilleusement présenté par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'Église, qui a dit une phrase extraordinaire. Elle a dit « Si vous voulez la justice, vous aurez la justice. Si vous voulez la miséricorde, vous aurez la miséricorde. » Alors, on reçoit de Dieu, et elle termine en disant « On reçoit de Dieu ce qu'on en attend. » Donc la question, c'est comment attendre de Dieu la miséricorde ? Ben, vous le dites tous les jours. Tous les jours, dans le Notre Père, vous avez votre ticket d'entrée. Tous les jours, dans le Notre Père, vous dites « Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Attention, si on est incapable de pardonner, Dieu est très clair, il ne pourra pas nous pardonner. C'est pas qu'il ne pourra pas, c'est qu'on ne voudra pas. Donc là, je suis obligé d'être clair, hein, l'évangile est très fort là-dessus. On a droit à 150% de la miséricorde du bon Dieu, mais il y a un ticket d'entrée, c'est le pardon. Il y a un ticket d'entrée, c'est autrement dit l'humilité du cœur. Hein. Et si on rentre, nous, dans cette humilité, dans ce pardon autour de nous, si on pardonne aux autres, alors Dieu nous pardonne. Autrement dit, si on rentre dans ce chemin de petitesse, d'écoute, de soumission à Dieu, d'amour, alors c'est plus le Dieu Tout-Puissant qu'on a face à nous, c'est un Père aimant qui veut nous consoler, nous accueillir. Hein, donc ça c'est super important à comprendre. Alors ça veut dire une chose, c'est que quand vous souffrez... Alors maintenant, l'Église ne dit jamais, ça c'est interdit par la morale, par Jean-Paul II, par tout le catéchisme, vous ne pouvez jamais dire à quelqu'un « Tu as telle souffrance parce que tu as péché ». Ça, c'est juste pas possible de dire ça dans le cadre de la foi. Parce que Dieu nous aime. Il peut peut-être arriver que Dieu agisse de cette manière, que Dieu Tout-Puissant agisse de cette manière. C'est son secret. C'est peut-être dans certains cas la seule solution qu'il a pour faire bouger quelqu'un, pour convertir quelqu'un. Et peut-être c'est possible. Hein. Ça, c'est son secret. Mais nous, on peut jamais dire à quelqu'un « Tu souffres parce que tu as péché ». Et on peut jamais se le dire à soi-même. Ne vous dites jamais « Je souffre ». Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse souffrir? S'il vous plaît, ne le dites jamais. Hein? Ne vous dites jamais « je suis coupable, je souffre donc je suis coupable ». Non, non, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Hein? Le bon Dieu vous offre sa miséricorde. Donc ne jugez jamais vos souffrances ou vos épreuves comme une punition. Dieu ne nous demande pas de nous sentir coupables quand nous souffrons, ça c'est super important. Il nous demande de nous jeter dans ses bras. Hein? Alors paradoxalement, il y a quelque chose de très très étonnant dans l'Église, si vous regardez bien, c'est que l'Église et l'Écriture défendent avec beaucoup de force l'existence de la souffrance innocente. On pourrait se dire, mais c'est contraire à l'amour de Dieu, on va essayer de comprendre. Mais ça c'est très important à comprendre. Il existe des souffrances innocentes, et nous avons dans nos vies des souffrances innocentes. C'est pas parce que nous souffrons que nous sommes coupables. Il y a énormément de démarches thérapeutiques, hein, dans plein de domaines, qui démarrent parce qu'on ne se sent plus coupable, parce qu'on cesse de se dire « je suis nul, je suis coupable, je suis mauvais, hein, je suis lamentable ». Dès qu'on dit ça, on sort du cœur de Dieu. Dieu, il n'a qu'un regard sur nous, c'est un regard d'amour. Donc la souffrance innocente existe, hein, et elle est dans nos cœurs et elle est dans le monde. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. On n'est pas entouré de punition. Voilà. Alors, je termine maintenant, le cœur, le nœud du truc, ben on est au cœur du mystère. Hein. Comment Dieu, quel sens donner à cette souffrance innocente? Quel sens donner à toutes ces épreuves de nos vies? Quel sens donner à tout ce qu'on voit dans le monde? Alors là, l'Église et moi-même, on est d'une prudence extrême, parce que moi, quand j'ai préparé avec Anne ce parcours, on était extrêmement attentifs, délicats, on s'est dit, mais il y a tellement de cœurs blessés, comment respecter l'itinéraire de chacun, la blessure, la fragilité de chacun, puis en même temps donner une parole d'espérance. Vous pensez bien que si je vous disais, je sais pas, je prends une maman qui a perdu son enfant, si je pouvais venir, ou si l'Église pouvait venir et dire, voilà, il y a une explication simple, il y a tel point, c'est facile à comprendre. Vous imaginez bien que ça serait scandaleux, ça serait inacceptable. Une telle réponse n'existe pas, c'est pas pensable, on ne peut pas aborder ça comme ça. Alors en fin de compte, j'étais embêté, je savais pas comment m'en sortir, puis j'ai eu une lumière. En priant, j'ai une lumière, je me suis dit, il n'y a pas d'explication au mystère de la souffrance, mais il y a une réponse. Et cette réponse, elle est en quelque sorte définitive, mais il n'y a pas d'explication. Cette réponse, écoutez bien, ça c'est vraiment le cœur de l'Évangile, cette réponse, c'est pas une explication intellectuelle, c'est une personne. C'est beaucoup mieux. C'est une personne. La réponse ultime au mystère de la souffrance des innocents, mystère de la souffrance dans notre vie, c'est Jésus. C'est la personne même de Jésus. Et on va essayer de rentrer dans ce mystère et de comprendre un peu pourquoi c'est lui qui donne sens. Hein. C'est lui qui donne sens. Alors, pour recevoir cette réponse, il faut la demander. Et il faut la demander avec force. Et si vous souffrez, si vous êtes dans l'épreuve ou si vous êtes dans les questions, criez vers Dieu. C'est votre grandeur d'être humain. Criez vers Dieu, demandez-lui et il écoute. Le Dieu de toute miséricorde, il écoute. Et il va donner dans votre cœur cette réponse qui est Jésus lui-même. Et il faut lui demander. L'antidote, le problème du mystère de la souffrance, c'est la question terrible, mais alors Dieu s'en fiche, quoi. Hein, on souffre, on est sur notre terre, on galère, puis lui il est là-haut, tranquille, dans son ciel, il a la climatisation, il n'a pas de soucis. Et l'antidote à ça, c'est Jésus crucifié. L'antidote à ça, c'est le visage du Christ qui nous montre ce que ça fait à Dieu. Par Jésus, Dieu nous montre ce que ça lui fait à son cœur de Père, nos péchés, ce que ça lui fait, notre souffrance, nos faiblesses, nos blessures. Et alors, quand on regarde le visage du Saint-Suaire, quand on regarde le visage de Jésus, on peut plus dire Dieu s'en fiche, on peut juste dire Dieu est blessé, on peut juste dire il est solidaire, il est de notre côté, il traverse avec nous, il traverse avant nous. Ça, c'est le grand secret. Hein. Alors, je termine ça, enfin, c'est tellement important, mais je ne veux pas être trop long. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Jésus, parce qu'il était Dieu, il a souffert infiniment plus que nous, pas moins, plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait aucune protection. Donc quand on fait face au mal, quand on fait face à une souffrance, on met en place des protections. Notre cœur se durcit, on se raconte des histoires, on fuit, on allume la télé, enfin on a plein de stratégies, hein, les psychologues connaissent bien ça, on a plein de stratégies pour fuir. Mais Jésus, il n'avait pas de durcissement du cœur. Il était totalement innocent. Alors, retenez bien ça, Dieu est totalement innocent du mal dans le monde. Ça vient pas de lui, ça vient pas de lui. Donc il s'est pris ça en pleine figure. Il était totalement lucide. Nous on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Lui il était totalement lucide. Donc il a traversé des détresses qu'on ne peut même pas imaginer. Il a traversé un chemin qu'on ne peut pas imaginer. Quoi que vous ayez vécu, il est passé devant. Quoi qu'il vous arrive, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous vivrez, il y est déjà passé. Il l'a déjà vécu. Il vous précède sur ce chemin. Il a voulu explorer tous les chemins de la souffrance et de la détresse des hommes. Alors on peut se réfugier dans son cœur, tout ce temps qu'on est. Alors je termine avec cette phrase d'Évangile, puis on va basculer sur un témoignage. Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est vraiment le cœur de notre foi. On va écouter un petit témoignage de Arnaud et Véronique qui vont nous donner un récit assez touchant, très touchant, qui nous montre un petit peu cette grâce de Jésus qui vient nous transformer dans les épreuves.
Bon, moi je vais... histoire d'illustrer tout ce qu'on vient de voir, je vais vous raconter l'histoire de Pia. Pia, c'est une jeune fille qui, en 2008, était en terminale. Alors, terminale, pour les traducteurs, c'est la dernière année avant, enfin, pour la fin du lycée. Et dans son année de terminale, elle a commencé à avoir des problèmes ophtalmologiques. Et en fait, assez vite, on a pris conscience que ces problèmes ophtalmologiques étaient liés à une tumeur au cerveau. Elle avait un cancer, très clairement. Dans son épreuve, elle a voulu vivre, elle a voulu se battre. En tout début 2009, donc, elle venait de découvrir sa maladie. Elle a voulu et elle a passé son bac blanc. Elle a subi une première opération en janvier, je crois, avec évidemment plein d'espoir. On espère toujours, et à la fois certaine lucidité sur la réalité de ce qu'elle de sa maladie. À l'issue de la première opération, il lui a été dit qu'elle ne pourrait plus conduire. Malgré la gravité de la situation, il est resté dans l'espérance qu'elle puisse conduire, qu'elle puisse vivre normalement. À l'issue de cette première opération, elle est entrée dans une phase de rémission. Elle a passé son bac, elle l'a eu avec mention bien, donc avec des très bonnes notes pour les traducteurs. Et là, elle a pu faire le rêve qu'elle voulait depuis toujours, c'est qu'elle a commencé ses études de médecine. Les études de médecine, je pense que dans tous les pays du monde, c'est la même chose, c'est compliqué et ça nécessite de beaucoup travailler. Et en décembre 2009, elle a rechuté. Une rechute brutale, une rechute dure, parce que le mal progressait très très vite. Elle a vécu opération sur opération, opération à cerveau ouvert. Elle a beaucoup souffert. Et dans ce contexte de grande souffrance, elle avait toujours un humour invraisemblable. Elle avait demandé à son père de prier pour ça, de prier pour qu'elle ait une grâce d'humour dans cette maladie. Et notamment, elle aimait beaucoup qu'on lui lise un livre de Bernard Pérouse, qu'on a entendu en tout début de session, et de Marie-Ange Pompignoli, qui s'appelle « Dieu est humour ». Et notamment, il y avait une histoire qui l'avait beaucoup fait rire, c'est l'histoire d'une petite fille qui disait à un prêtre, moi je voudrais, le prêtre lui demandait, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande? La petite fille lui disait, moi je voudrais être vierge. Alors le prêtre lui disait, mais pourquoi veux-tu être vierge plus tard? Ah, parce que je voudrais être comme la Vierge Marie. Ah, mais pourquoi veux-tu être comme la Vierge Marie? Ah, parce que j'aimerais bien avoir un petit bébé. Voilà, et Pia était vraiment avec beaucoup d'humour dans sa maladie pour l'aider à passer au-dessus de sa souffrance. Elle parlait pas de la tumeur, elle parlait de la méchante boule. Parce que la tumeur, dans le mot tumeur, alors ça c'est un jeu de mots français, excusez-nous les traducteurs, mais dans tumeur, il y a tu meurs. Et elle aimait pas ça du tout. Voilà, le 5 mars, elle est partie en soins palliatifs. Les choses allaient vraiment très mal. Elle était déjà dans le coma depuis quelques jours. Ce coma, avait connu autour de Pia une densité de prière étonnante. Il y avait les jeunes autour de Pia, elle avait... Excusez-moi, c'est encore...
Alors, c'est une histoire pas très vieille et j'ai un mari très émotif. Donc, je prends un petit peu le relais et j'ai vécu ça de la même façon que lui. Donc, Pia était dans le coma depuis une semaine et énormément de jeunes se sont relayés autour d'elle pour prier. Elle est partie vers le Père le 6 mars. Et 3 jours après, c'était prévu, avant sa mort, une grande veillée de prière a eu lieu où, il me semble, 400 personnes se sont rendues, dont une large proportion de jeunes. Hein. Il faut se souvenir de son âge, elle avait 19 ans. Son papa est intervenu pendant cette soirée de prière. Il était triste, évidemment triste, mais dans une confiance incroyable de savoir que sa fille était au ciel. Et puis, on a eu l'intervention pendant cette veillée de prière d'un homme qui était médecin et qui avait soigné Pia. Il n'était pas croyant, en tout cas pas chrétien. Il se décrivait lui-même comme voyant non pas des malades devant lui, non pas des êtres humains, mais des maladies. Et il a été extrêmement touché par le rayonnement de Pia et de toute sa famille et de tous ses amis autour d'elle. Il se rendait compte que toutes les barrières qu'il mettait, c'était peut-être pour ne pas souffrir. Et il s'est rendu compte que ce rayonnement de toute la famille de Pia, eh bien, c'était quelque chose qui lui faisait un peu tomber ces barrières, qui l'ont ébranlé dans toutes les barrières qu'il s'était mises, et que ça allait changer quelque chose dans sa vie, qu'il ne soignera plus des maladies, mais des malades.
Donc on est là au cœur d'une tragédie humaine, d'une tragédie familiale, d'une tragédie pour les proches. Et à la fois, au travers de cette tragédie, derrière se révèle un certain nombre de Fioretti, beaucoup de Fioretti. Je ne serais pas évidemment capable, on les a pas inventoriés, ne seront pas capables de toutes les citer, mais on va vous en citer quelques-unes. Il y a déjà cette interne qu'on vient de citer. Mais on a vu aussi tout le chemin de cette famille. L'attente du miracle. Pia demandait le ciel ou la guérison. Elle disait pas « je veux guérir », elle disait « je veux l'un ou l'autre, je voudrais juste que ça ne dure pas longtemps ». Le ciel était aussi pour elle quelque chose de bon. Elle avait bien compris que la maladie ne venait pas de Dieu, que c'était pas Dieu qui la voulait malade. Mais par contre, elle avait compris que Dieu était là, à travers sa maladie. Pour son père, ça a été évidemment des étapes extrêmement difficiles, vous le comprenez. Et à la fois, 4 jours après, il témoignait de 4 jours après la mort de Pia, il témoignait déjà de l'offrande qu'il avait faite sa fille. Après toutes les phases de refus, de rejet, de négociation, je veux prendre sa place, échange, Seigneur, prends, laisse-moi partir à la place de Pia. Jusqu'au bout, ils ont prié pour sa guérison et ils ont accepté la mort de Pia comme étant l'entrée au ciel pour Pia. Un point qui est très important, qui a été dit tout à l'heure par Anne et hier encore, c'est que les parents ne sont pas restés seuls pendant cette période-là. Ils demandaient de l'aide. On savait quand ils avaient besoin de nous. On le savait. Et ils le demandaient fréquemment.
Deux jours avant sa mort, donc elle était dans le coma à l'hôpital, son papa me téléphone, et alors que ça me faisait bien une semaine que je ne l'avais pas eu au téléphone, il me téléphone, il me dit « Maintenant c'est le bon moment, c'est le moment que tu viennes ». Et quand je suis arrivée, donc il faut savoir que Pia a 6 frères et sœurs, ils étaient là tous les 9 dans la chambre de Pia, dans laquelle ils ont passé toute la semaine, tous les 9. Et forcément, humainement, c'était pas facile, ils avaient besoin d'aide. Et le fait que j'arrive tout simplement avec rien, avec juste une présence, ça leur a fait du bien. Et moi, ça m'a beaucoup touchée de voir comme ils savaient demander de l'aide. Et je pense que ça, c'est une, pour moi, c'est quelque chose de très important, de comprendre maintenant qu'il ne faut pas rester seul avec sa souffrance, mais pouvoir demander de l'aide, et ça fait du bien à tout le monde.
Donc je disais qu'on est face à une tragédie. On en voit déjà quelques fruits. On a parlé de l'interne, on a parlé de sa famille. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment prié le chapelet le 5 mars, la veille de sa mort, au pied de Pia avec sa maman. J'ai appris ce jour-là à prier le chapelet. Pour moi aussi, ça m'a permis de comprendre combien nos enfants sont des cadeaux, combien chaque relation est un cadeau. Et j'ai redécouvert le temps gratuit à passer avec chacun de mes enfants. Voilà, c'est à la fois une tragédie encore pour moi, vous l'avez entendu, et à la fois j'en vois tous les fruits aujourd'hui. J'en vois tous les fruits au travers des jeunes qui étaient là autour, j'en vois tous les fruits au travers de toutes les personnes, toutes les malades qui sont maintenant soignées, et non plus les maladies qui sont soignées par l'interne. Donc on n'est pas capable de mesurer combien de fruits on peut trouver, ces fruits microscopiques, et à la fois ces fruits qui se multiplient sur une quantité énorme de personnes, vous en êtes aujourd'hui, montrent combien le Seigneur a utilisé le mal, la maladie, pour en tirer un bien. Dieu ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Le mal n'en devient pas pour autant un bien. Ça vient du fameux gros machin, le catéchisme de l'Église catholique.
Alors, je voudrais terminer par une notion qui me tient beaucoup à cœur. On va prendre 5 minutes, qui est un petit peu en retard, mais il y a des moments dans notre vie où on vit des choses tellement difficiles qu'on est tenté par le désespoir. Hein. Alors ça, c'est la dernière carte du tentateur. Hein. C'est la dernière épreuve, en quelque sorte. On est tenté par le désespoir. Et alors là, je voudrais vous parler d'une chose, moi, qui m'a toujours énormément touché, c'est Jésus à la fin. Il a voulu, cette tentation du désespoir, elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'on se dit c'est foutu. Telle maladie, tel accident, tel décès, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini, j'abandonne. Ce qui est important, ce qui est fort à voir, c'est que dans le désespoir, il y a une coupure. Il y a une sorte de non. J'abandonne. Je parle plus à Dieu. Je me referme. J'abandonne la lutte. Il y a une porte qui se ferme. Il n'y a pas d'unité possible dans le désespoir, parce qu'on a notre communication s'arrête. Notre communication avec Dieu se coupe. Et en fait, il y a des liens très proches entre le désespoir et la révolte. C'est comme une pièce qui a deux faces. Il y a une face, c'est la révolte, on est en colère. Puis il y a une pièce, de l'autre côté de la pièce, c'est le désespoir. Dans les deux cas, on dit non. On s'est coupé de Dieu. Et si on regarde comment Jésus a vécu ça, il y a eu ce moment incroyable sur la croix où il crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est quelque chose d'inouï parce que sa foi était totale. Sa connaissance de Dieu, son Père, était totale. Sa certitude de son amour et de sa toute-puissance était totale. Donc il savait que Dieu pouvait tout faire. Il savait que Dieu pouvait le sauver immédiatement. Il savait que Dieu pouvait répondre à toutes ses demandes. Mais il a ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Autrement dit, à la fois il a cette certitude que Dieu nous aime, que Dieu peut agir, et en même temps il a cette expérience que Dieu n'agit pas. Et pourtant, il n'y a pas l'ombre d'une révolte dans l'attitude de Jésus. Il y a seulement une détresse confiante, il y a une détresse infiniment plus profonde que la nôtre, mais confiante. Et Jésus nous apprend à passer du désespoir à la détresse confiante. son cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme s'il disait, je comprends plus rien. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus où tu es, mon père. Et je le sais d'autant moins que ma foi est solide. Parce que je sais que tu existes. Alors pourquoi tu agis pas? Vous voyez cette contradiction. Hein? Et en quelque sorte, cette connaissance de Jésus renforce sa détresse. Parce qu'il sait que Dieu pourrait agir. Puis Dieu n'agit pas. Donc il a été là encore au-delà de ce qu'on peut vivre, mais il est resté dans la confiance. Il est resté dans une espérance totale et il a dit oui. Et alors la réponse extraordinaire du Père est venue, c'est la résurrection. Et Jésus nous a traversé ce chemin avant nous, il est passé de la mort à la résurrection. Et ce salut qu'il nous apporte, cette vie merveilleuse qu'il nous apporte, elle vient de ce oui qu'il a donné. Elle vient du fait qu'il a dit oui à tout, qu'il a vécu tout ce qu'on peut vivre. Et du coup, le salut est venu et la joie du ressuscité est venue. Et on entend transparaître dans ce témoignage d'Arnaud et Véronique, il y a encore la douleur, on sent encore la détresse humaine, mais en même temps, on sent déjà transparaître cette présence du ciel mystérieuse. Et alors, Mère Teresa nous dit, elle qui a vu tant de misère, ne laissez jamais, écoutez bien ça, ne laissez jamais rien éteindre en vous la joie du Christ ressuscité. Et elle en a vu des misères. Et voilà ce qu'elle nous dit, c'est son testament. Ne laissez jamais rien éteindre en vous la joie du Christ ressuscité. Alors ça, c'est une grâce qu'il faut demander. Et Jésus, il n'est pas seulement venu être solidaire, il nous a donné un fruit. Et vous êtes ici pour cueillir ce fruit. Vous avez les moyens, la nourriture pour être transformé, pour être éclairé par cette joie du ressuscité. Vous avez les sacrements, vous avez la vie dans l'esprit, vous avez l'écoute des frères, la charité, enfin on ne va pas refaire la liste, mais c'est tous ces fruits merveilleux de l'Église que Jésus vous donne. Alors, c'était... Tu crois pas ? Donc c'était une grande session. On va vous laisser avec cette soif et puis ce mystère de Jésus dans vos cœurs. On avait d'autres... Ouais, tu veux finir.
Bon, je vous raconte juste une petite histoire, c'est une blague. Hein. Alors, c'est nous, on habite dans les montagnes. Alors, c'est un homme qui se promène en montagne, et puis il tombe de la falaise. Et il se raccroche à une branche. Et il crie, « Ouh, il y a quelqu'un ?» Et personne ne répond. Alors, il crie beaucoup plus fort, « Il y a quelqu'un ?» Et là, il y a une grosse voix qui dit, « Oui, je suis là. » Ah, qui es-tu? Où es-tu? C'est moi, Dieu. Ah, sauve-moi. Lâche la branche. Y a quelqu'un d'autre? Voyez, alors, demain, on va essayer de vous aider à lâcher la branche. Hein? On va essayer de vous donner plein d'armes, plein de moyens. Que vous repartiez avec votre besace remplie. Voilà. Demain, il risque de pleuvoir. S'il pleut, ce sera ailleurs. Donc, on sera sous la tente vers 14h30 et puis on va voir ce que les responsables nous diront. Hein. Merci d'être venus. Prions bien les uns pour les autres. Et nous, on prie pour vous de tout cœur.